Nous commençons ce matin une série de messages sur le livre de la Genèse, en nous focalisant particulièrement sur un patriarche. Sinon, vous auriez eu un long temps sur les messages de la Genèse, donc on a quand même dit on va se focaliser sur l'arrière-petit-fils d'Abraham. L'arrière-petit-fils d'Abraham, il en avait plusieurs, mais entre autres, donc, le livre de la Genèse se focalise sur Joseph. Joseph, l'auteur de la Genèse consacre plus d'un quart de son écrit sur la vie de Joseph à partir du chapitre 37. Et avec Joseph, c'est très intéressant l'histoire de Joseph. Nous allons pouvoir traiter plusieurs sujets et on va parler particulièrement donc, du quotidien d'un individu et donc aussi du quotidien d'une famille. Et ce matin, nous rentrons dans l'histoire de Joseph et nous le découvrons dans sa jeunesse au sein de sa famille. Et la famille, il en est question dans ce passage que nous allons lire. Et je vous propose ce matin de nous arrêter sur ce qui est dit de la famille de Joseph, de son père, de ses frères, de lui-même. Et nous soulignerons leurs relations, sentiments, attitudes qu'ils avaient les uns à l'égard des autres. Et à travers de cette famille, vous l'avez peut-être compris, nous allons tirer quelques enseignements pour nos familles. Cette semaine, je vous ai envoyé donc un email pour ceux qui reçoivent les emails. Si vous avez un email que vous ne recevez pas, venez me voir. Je vous envoie régulièrement, chaque semaine, pratiquement un, voire deux, voire trois emails d'informations et aussi un email par rapport au texte donc, qui va être maintenant prêché, sur lequel on va prêcher donc, le dimanche suivant. Vous avez vu qu'on va ouvrir les Bibles donc, au chapitre 37, les versets 1 à 11, mais on va quand même faire un petit peu en avant, essayer de comprendre l'histoire de cette famille en regardant le chapitre 29, et on n'ira pas tout l'histoire dont il est question dans le chapitre 29 et le chapitre 30, mais on va lire au moins les versets 29, versets 31, jusqu'au chapitre 30, verset 8. Donc, une vingtaine de versets déjà, et après nous lirons le chapitre 37. Donc, tout d'abord, chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, elle accoucha d'un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi donné celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois, enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Et elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Et elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas et elle cessa alors d'enfanter. Chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle n'enfantait pas de fils à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, mais suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle accouche sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Elle lui donna pour femme sa servante Bila, Jacob alla vers elle et Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a aussi entendu ma voix et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. De Bila, hein. Rachel dit, j'ai lutté auprès de Dieu contre ma sœur et j'ai vaincu. Elle lui donna le nom de Naphtali. Voilà, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter là. Et on va aller au chapitre 37 maintenant, le texte que nous allons particulièrement étudier aujourd'hui, où nous retrouvons donc là, à ce moment-là, les enfants qui sont grands, et Joseph et Jacob. Jacob habita dans le pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa. On verra que ce sont donc les deux concubines qui vont être données, les deux servantes qui vont être données donc à Jacob pour qu'elles enfantent des enfants, femmes de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, qui est donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique bigarrée. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore plus davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu prétends régner sur nous ? À moins que tu prétendes être notre maître ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il vit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, « Voilà ce que j'ai encore fait comme rêve. J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères, et son père le gronda et lui dit, « Mais que signifie ce rêve que tu as fait ? Prétends-tu que nous viendrons ta mère, tes frères et moi nous prosterner en terre devant toi ?» Et ses frères éprouvèrent alors de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Que le Seigneur bénisse sa parole. Problème de famille, une famille loin d'être dans les normes. Pour ceux qui ont reçu les mails en début de semaine, je vous demandais de lire ces chapitres 29 et 30 qui décrivent comment Jacob, le père de Joseph, a fondé sa famille. Auparavant de notre lecture d'aujourd'hui, on a l'histoire de comment Jacob va fonder ses couples, en quelque sorte, donc, hein, puisqu'il va avoir quatre couples, quatre femmes, donc, hein. La famille de Jacob va se reposer sur le mariage avec deux sœurs, Léa l'aînée et Rachel, qui donnèrent comme concubine à leur mari, Jacob, donc leur servante Bila pour Rachel, on l'a vu, on a un peu lu cela, et par la suite on aurait pu lire que Zilpa, donc servante de Léa, va être donnée par Léa à Jacob pour qu'elle puisse enfanter aussi. Et l'histoire de la famille de Jacob est loin d'être exemplaire. Nous avons à ses débuts un homme avec quatre femmes. Et il serait trop long de lire toute l'histoire dans ces deux chapitres, mais pour rappel, juste je le rappelle. Donc, Jacob s'installe chez son oncle Laban. Il fuit son frère, il va s'installer sous le conseil de sa mère, donc chez son oncle Laban. Frère de sa mère, qui a deux filles, donc nous l'avons dit, Léa et Rachel. Jacob, l'œil tombe, boum, devant Rachel, il tombe amoureux de Rachel. Et il va faire tout pour l'avoir pour épouse. Et le jour du mariage, son oncle et beau-père, qu'est-ce qu'il fait ? Il le trompe. Il le trompe et au lieu de lui donner celle qu'il aime et de coucher avec sa femme Rachel, il met dans les bras donc, de son futur gendre Léa, la sœur aînée. Jacob le découvre le lendemain, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas des lumières comme aujourd'hui. Donc, et Jacob, trompé, est obligé de garder Léa comme femme. Et il accepte encore d'œuvrer pour avoir Rachel, celle qu'il aimait. Et déjà à cette étape, on peut quand même déceler que dans les couples de Jacob, il va y avoir des problèmes, et entre autres de la jalousie. Vu que Rachel, étant le premier amour de Jacob, va devenir sa préférée. Et Léa va devenir la délaissée. Au chapitre 29, versets 31 et 32, il est mentionné que Léa n'était pas aimée par son mari. Et une note signale que littéralement, on pourrait traduire qu'elle était haïe. C'est fort, hein ? Et à la naissance de son premier fils, le premier fils de Léa, Ruben, elle va proclamer « L'Éternel a vu quoi ? Mon humiliation. L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Et dans cette famille, il y avait tout alors pour qu'il y ait de la jalousie entre les sœurs qui se partageaient le même mari. Ces femmes vont avoir au début des problèmes pour enfanter, ce qui va créer aussi des inégalités entre elles, car vous le savez, malheur à celle qui n'enfantait pas, et heureuse alors la femme qui donnait un fils à son mari. Et c'est ce qui va arriver d'ailleurs à Léa. Dieu va être clément vis-à-vis de Léa, et Léa va pouvoir enfanter, et elle va avoir 4 garçons à la suite, les vrais Dalton. Donc, avec toujours l'espoir que Jacob va s'attacher plus à elle qu'à sa sœur. Et on le voit dans ses propos, comme on le dit, chaque fois qu'elle a un fils. Donc, et cela va effectivement entraîner la jalousie de sa sœur Rachel, qui, elle, reste stérile. Elle, celle-ci, savait qu'elle aurait alors tout l'amour de son mari si elle lui donnait des fils. Mais elle ne pouvait pas lui donner des fils. Alors, Rachel place sa servante, Bila, dans les bras de Jacob, pour qu'il couche avec elle afin de devenir une mère porteuse. Et cette dernière lui donne pas seulement un fils, mais 2 que Rachel va adopter en quelque sorte comme ses fils. Et c'est très intéressant que par la suite, il n'y a pas de distinction. Certes, quand on parle de la famille de Jacob, on dit voilà fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, mais on parlera de 12 tribus et pas des tribus demi qui seraient pas trop tout à fait parce qu'il y a la concubine et tout. Tous sont fils de Jacob, bien reconnus comme tels. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une véritable adoption de ces fils des servantes. Et pour Rachel, ces 2 fils lui donnent la victoire, même s'il n'y en a pas 4 en face. Même si elle n'en a pas 4 et qu'elle en a 4 en face. Et ses fils lui donnent la victoire sur sa sœur, puisqu'elle dit, verset 8 du chapitre 30, « J'ai lutté auprès de Dieu contre ma sœur et j'ai vaincu. » J'ai vaincu. Mais Léa, et là on ne l'a pas lu, c'est la suite du chapitre 30, n'a pas dit son dernier mot. Voyant qu'elle n'enfante plus, elle a aussi recours à sa servante Zilpa pour que celle-ci couche avec son mari. Et ce qu'elle fait, elle lui donne donc d'autres enfants. Donc Zilpa donne 2 fils à Léa qu'il considère aussi comme sien. Alors, vous avez donc, vous rappelez, donc 4 plus 2, 6. Pour Léa, et en face Rachel, 2. Hein. Puis Léa, en plus, devient encore enceinte 2 fois et met au monde 2 autres fils. Waouh! 6 plus 2, 8, 2 en face. Waouh! Mais Dieu donc se souvient de Rachel et il permet à Rachel d'avoir son premier fils, Joseph, et à la suite, un autre fils, mais beaucoup plus tard, Benjamin. Ce Benjamin, donc, quand Rachel le mettra au monde, l'accouchement va mal se passer et cet accouchement va entraîner la mort de Rachel. Et quand on lit commence, donc, et là, donc, on voit encore l'inégalité, 8 d'un côté, 3 de l'autre, mais le troisième, c'est le tout dernier à ce moment-là, pas n'importe qui, Joseph, le fils de la bien-aimée. Et pratiquement, donc, autant c'était comme ça à faveur de Léa, avec Joseph, c'est comme ça et même comme ça maintenant. Pourtant, il n'y en a que 3. Mais c'est Joseph, le fils de la bien-aimée. Alors, quand on lit comment s'est constituée cette famille, on peut se dire, mais quelle histoire ! Ou plutôt, quelle avec un S, histoire avec un S de famille. Il y a de quoi faire un film. Alors, que pouvons-nous dire sur cette famille ? Déjà, pas de doute. Dans cette famille, c'est la zizanie, il y a de la jalousie entre les membres de cette famille. Et il faut dire que tout s'y prête, car inévitablement, quand un homme a plusieurs femmes, il y a de la rivalité, et il y a des préférences. Plus l'amour pour l'une, délaissement pour l'autre, et c'est comme ça. Et c'est aux femmes de se battre pour avoir leur mari. Et cette jalousie entre ces femmes va entraîner un manque de considération envers l'autre, voire de la rancune, de l'antipathie entre les sœurs. L'autre va devenir la rivale qui n'est plus aimable et qui devient quelqu'un qu'on n'apprécie plus la compagnie, qu'on rejette. Les relations vont se détériorer et ne seront plus alors fraternelles. Entre sœurs, comme une sœur peut regarder sa sœur, l'autre est vue comme une concurrente, voire une adversaire qu'il faut à tout prix battre. Aussi, quand on lit notre passage d'aujourd'hui, on découvre que les enfants de Jacob sont devenus des adultes et qu'on peut encore voir que c'est loin d'être une famille sans histoire. Des problèmes de famille qui se répètent, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre, donc 37, le début. En effet, les mêmes problèmes reviennent. On voit que Jacob a reporté sa préférence pour Rachel sur ses enfants, particulièrement Joseph, l'aîné de Rachel. Rachel, donc à ce moment-là, Rachel est morte, donc. Il faut que je me remette ma chronologie. Il me semble que Rachel meurt un peu plus tard. Non, elle est déjà morte, excusez-moi, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'est ça. Donc, et Joseph rapporte donc sa préférence sur Joseph. J'ai dit quoi, Rachel ? Jacob. Oh là, excusez-moi. Et cette préférence se voit par l'écoute qu'a Jacob dans notre texte de Joseph. Il écoute Joseph qui rapporte les mauvais propos de ses frères. Et rien n'est dit sur le fait que Jacob tempère. Il dit, oh calme-toi, c'est quand même tes frères. Rien n'est dit qu'il reprend son fils Joseph sur le fait qu'il devient quand même un rapporteur et que cela ne va pas arranger ses relations avec ses frères. Il n'y a aucun propos du père Jacob à Joseph pour maintenir l'unité et la paix parmi ses enfants. Et on a l'impression que Jacob accepte en quelque sorte cette collaboration avec son fils Joseph sans se soucier que cela n'arrange pas les relations fraternelles. De plus, Joseph va marquer sa préférence d'une façon très visible pour Joseph en le distinguant de ses autres frères par un habit qu'il lui offre, cette fameuse tenue bigarrée, faisant bien passer le message aux autres frères que Joseph était bien le préféré de leur père, le chouchou, comme on dirait aujourd'hui. Le résultat, ses frères alors vont cultiver de la haine pour Joseph et non de l'amour fraternel. Et ils vont le prendre donc véritablement donc en haine. Et cela va se retrouver dans leur relation, car nous dit le texte, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. J'imagine tous les noms qu'ils devaient donner à Joseph. Comment aussi ils devaient l'accoster et lui parler durement sans le ménager, le petit dernier, le chouchou. Et on voit là qu'on est loin de bonnes relations de paix et d'amour qu'il est bon de vivre dans une fratrie. Et avant d'aller plus loin, donc dans notre texte, arrêtons-nous sur la raison de ces problèmes relationnels. J'en vois quelques-uns. La faute au père. Sans aucun doute, Jacob est responsable. Responsable de ce climat qui existe entre ses enfants. Mais peut-être déjà, avant de parler du père, je parlerai des mères. Car bien que Rachel soit décédée depuis plusieurs années, Léa et Bilha et Zilpa, les trois épouses de Jacob, sont encore là. Et bien qu'il ne nous ait rien rapporté, nous pouvons penser que la jalousie qui existait entre Rachel, la préférée, et cette jalousie donc, qui existait de l'autre côté, aussi avec ces trois femmes, certainement, même s'il est question plutôt de Léa, mais on peut penser pour Bilha et Zilpa, même si elles étaient des servantes, il n'empêche qu'elles avaient un cœur de femme. Donc il y avait de la jalousie. Et cette jalousie devait encore exister envers Joseph maintenant, le préféré. Pourquoi ? Parce que quand ces femmes voyaient leur fils moins considéré que Joseph, que leur frère, cela ne pouvait qu'encourager ces femmes à avoir de la jalousie, mais aussi ses frères, les enfants de ces femmes, donc d'avoir de l'animosité à son égard. Ainsi, les parents qui ont cultivé des mauvais jugements, des mauvais comportements, les ont semés dans le cœur de leur enfant. Ils les ont semés. Et les enfants reproduisent l'exemple de leurs parents, vous le savez. Leur considération des autres, en tout cas, tant qu'ils ils ne s'arrêtent pas et disent « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» et prennent du recul par rapport à ce qu'ils ont reçu de leur enfant. Mais bien souvent, il y a une forte influence de ce que les parents ont transmis donc à leur enfant. Et là, on voit donc que ces enfants reproduisent l'exemple de leurs parents, leur considération des autres, ce qu'ils ont vu d'eux, donc de leurs parents. On dit, ouais, comment ils parlaient de Joseph, comment ils parlaient de Rachel et de Joseph. Et cette jalousie, cette haine qui existait déjà, cette concurrence qui existait déjà, ben, les enfants vont aussi donc, devenir des acteurs de la même de ces mêmes paroles, de ces mêmes comportements. Et c'est pourquoi il va y avoir de la jalousie entre eux et de l'animosité. Cela dit, donc, Jacob, ici, est aussi le coupable. La différence de sentiment et d'amour qu'il avait manifesté envers Rachel aux dépens des trois autres épouses se retrouve aussi chez les enfants. Les enfants de l'épouse préférée seront les plus aimés et les autres enfants moins considérés. Il va aimer plus Joseph, Benjamin, que les autres. Et cela, donc, va avoir de véritables dégâts. Alors, justement, quelles sont les leçons tirées pour nous ? Tout d'abord, nous voyons dans cette histoire les conséquences d'un foyer polygame. Si vous n'étiez pas encore convaincu que ce n'est pas un foyer polygame qui est la bonne norme, regardez ce texte. Donc, il y a inévitablement dans un foyer polygame de la jalousie, de la concurrence, de la préférence, beaucoup de choses qui sont loin d'apporter la paix au foyer. Mais je ne voudrais pas développer ce point. Pourquoi ? Parce que bon, je voudrais plutôt développer donc, cette relation parent-enfant. La première leçon que je voudrais tirer, j'en tirerai deux ici, avant d'aller plus loin dans notre texte, c'est que nous devons faire pas de préférence. On voit ici le danger de faire des préférences entre nos enfants. Car les enfants le voient vite et le sentent vite, et cela entraîne des sentiments, des comportements loin d'être heureux pour l'enfant, donc d'abord, mais aussi entre les enfants. Bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, j'espère que nous voulons considérer nos enfants de la même façon, sans mettre de préférence sur l'un ou sur l'autre. Mais nous voyons ici que Jacob aimait plus Joseph pour différentes raisons. Rappelons-nous ces raisons. Principalement parce qu'il était le fils de Rachel, l'épouse qu'il aimait le plus, et aussi parce qu'il était l'enfant de la vieillesse. Il avait eu tard. De la même façon, il y a des facteurs que si on n'y prend pas garde, peuvent nous amener à faire des préférences chez nos enfants. Citons quelques-uns de ces facteurs. C'est la seule fille, 4 garçons, une fille. Ah, c'est la seule fille quand même. 4 filles, un garçon, c'est le seul garçon. Hein, donc, c'est l'enfant dernier. Attention, le péquelé, comme on dit dans ici. Ou parce que peut-être une des raisons pour lesquelles on préfère plus l'un que l'autre, si on n'y prend pas garde, c'est parce qu'il nous ressemble le plus. Ou il ressemble le plus à notre conjoint. Parce que peut-être aussi, c'est l'enfant le moins difficile, plus gentil, plus obéissant que le sont ou l'ont été les autres. Parce qu'il est plus brillant à l'école. Parce qu'il est, à nos yeux, celui qui a le plus réussi professionnellement que les autres. Parce qu'il a pris, à nos yeux aussi, un bon conjoint. Ah, quand même, lui, il a bien choisi. Parce que aussi, lui, il éduque mieux ses enfants que les autres. Parce que lui aussi est plus câlin que les autres. Ou encore parce qu'il s'occupe plus de nous en vieillissant. Hein. Ah, lui au moins, hein, il s'occupe de nous. Hein. Alors, et on pourrait continuer comme ça. Et il y a bien des raisons qui font que d'un coup, ah ben on apprécie plus un enfant qu'un autre si on n'y prend pas garde. On va préférer un enfant plus que les autres. Et cela, nous ne devons pas l'accepter. C'est clair. Car inévitablement, cela se retrouvera dans les relations familiales, entre nos enfants et nous, et entre eux. Et il nous faut alors aimer nos enfants de la même manière et agir en leur faveur de la même façon, quel que soit leur âge. Et ça, c'est important aussi. Ce que nous avons fait comme certainement, comme ce que nous avons eu comme souci certainement quand nos enfants étaient très jeunes, c'est de ne pas faire de préférence. Nous devons continuer à le cultiver quand ils deviennent aussi adultes. Ce n'est pas évident. hein, des fois. Parce que quand ils deviennent adultes, ils nous échappent. Hein. D'un coup, ils prennent des directions qu'on n'a pas dit grand-chose dans cette affaire. Et là, on les aime moins parce qu'ils sont là, ou parce qu'ils font ça, ou parce que... Hein. Voilà, attention, attention. Il n'y a pas d'âge pour ne pas avoir de préférence parmi nos enfants. Ici aussi, je peux que rappeler l'importance de la prière dans cette attitude que nous sommes invités à avoir, de ne pas avoir de préférence. La prière pour demander à Dieu qu'il garde nos enfants. Pourquoi ? Pour qu'ils s'aiment. C'est qu'ils s'aiment entre eux. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce que nos enfants sont chrétiens qu'ils vont donc bien s'aimer entre eux. Oui, qu'ils s'aiment entre eux. Et pour que nous les aimions aussi chacun, sans préférence, malgré leurs différences. Et si, en sondant nos cœurs, notre passé ou notre présent, nous voyons que nous avons fait ou faisons des préférences et que cela a des conséquences dans nos relations, reconnaissons ces préférences, nos fautes, et demandons leur pardon. Des affaires de famille gangrènent la famille si elles ne sont pas réglées. Ce n'est pas évident de régler les affaires de famille. Je le conçois, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on prie aussi. J'étais content hier d'avoir un cher frère qui m'avait partagé, un homme qui s'est converti il y a peu de temps, avec donc une vie qui a été ce qu'elle a été, et qui souffrait quand même de ne plus pouvoir voir son fils. Et je dis, il faut qu'on prie pour ça. Ça va pas, quoi. Après, on a des enfants qu'on voit plus ou moins, ça c'est une autre histoire. Mais ne plus voir ses enfants, c'est terrible. Donc, et hier, il m'a dit, viens voir, j'ai une photo. Et il m'a montré son fils avec lui, c'était beau. Il m'a dit, on l'a pu, etc., etc. J'ai dit, ah, merci Seigneur, c'était beau. Voilà. Ouais, nous pouvons essayer de régler les problèmes en rectifiant, mais aussi des fois nos comportements. Il faut faire attention, nos paroles. En désirant mettre à plat ce qui ne va pas, en se demandant pardon. Le deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette famille, c'est l'importance de donner de bons exemples. L'importance de donner de bons exemples. Donc, l'importance d'être de bons exemples pour nos enfants et de veiller de ne pas leur donner, justement, de mauvais exemples. Donc, nous voyons ainsi que nos enfants reprennent les mêmes sentiments, les mêmes comportements que ceux de leurs parents. Et s'ils voient que nous avons peu de considération pour nos familles, pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs. Mais quel exemple nous allons leur donner? Et j'ai bien souvent donc vu des enfants se comporter comme leurs parents, en bien, et malheureusement aussi en mal. Et si nous voulons que nos enfants manifestent que dans leur relation de l'amour, du respect, de la clémence, de la grâce, du pardon, du don de soi, etc., montre-leur l'exemple. En faisant ce que nous voulons qu'ils vivent entre eux et avec d'autres. Oui, c'est là encore une leçon de cette famille. Quel exemple nous donnons? Si nous montrons que nous sommes jaloux toujours d'un tel et d'un autre, ne soyons pas surpris qu'un jour nos enfants soient jaloux aussi. Si nous, par contre, nous manifestons de la clémence, si nous manifestons de l'accueil des autres, ben nous pouvons espérer, parce que des fois ça ne se passe pas forcément automatiquement, qu'à un moment ou un autre, nos enfants vont commencer à être comme ça aussi. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Mais on va plus loin dans cette histoire. Les rêves mal rapportés. Quand j'ai lu ce texte, donc j'ai vu tout de suite les premiers problèmes, problèmes de jalousie, problèmes de préférence, problèmes. J'ai dit, oulala, mais c'est vrai, là, il y a des véritables problèmes de famille là, qu'il faut parler. Après, j'ai dit, mais avec ces rêves-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais je pense que ces rêves sont mal rapportés. En plus de l'attitude de Jacob, qui n'arrange rien dans les relations familiales, notre récit nous relate celle de Joseph, l'attitude de Joseph, qui va aussi, je pense, aggraver la situation. Vous pourrez ne pas être d'accord avec ça, et venez me voir tout à l'heure pour me le dire. Voilà un peu comment je vois la situation à ce moment-là. Joseph reçoit donc de la part de Dieu deux rêves, qu'il va partager avec ses frères et son père, et jusque-là, je crois qu'il n'y a rien à dire, c'est tout à fait normal. Mais là où il y a à dire, c'est dans la manière dont Joseph rapporte ces deux révélations. Sa façon de faire ne va pas arranger ses rapports avec ses frères. Sa façon de se considérer et de considérer les autres ne va rien arranger. Et il me semble qu'on la retrouve, cette considération de soi et la considération des autres, dans la façon dont Joseph rapporte ses rêves. La préférence de son père Jacob a aussi fait des grabuges dans la personne, le cœur de Joseph. Excusez-moi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il a développé des sentiments, des comportements de petit prince. Petit prince au-dessus des autres. On le voit quand Joseph reçoit de Dieu ses rêves qui annoncent ce qui se passera et sa façon de le partager. Joseph, je le dis bien, ne fait pas mal quand il reçoit, mais on peut penser qu'il agit un petit prétentieux quand il partage ses rêves à ses frères, comme si cela le confortait dans le fait qu'il est lui plus que les autres, plus que les autres fils. Il est celui qui a la première place dans les fils de Jacob, alors que, je vous le rappelle, il est le 11e enfant. Joseph aurait dû avoir plus de modestie, me semble-t-il. Au lieu de dire, je ne sais pas comment dans vos versions c'est écrit, il accoste comment ses frères ? Écoutez donc ! Écoutez donc à ses frères, comme s'il voulait que toute l'attention de ses frères soit sur lui pour leur dire son rêve, rêve qui annonçait sa suprématie sur eux. Joseph aurait pu accoster ses frères et dire autrement ce rêve, car il connaissait déjà, vous le savez, les sentiments, les comportements de haine de ses frères. Il en avait eu déjà donc les conséquences de ses frères à son égard, et il savait que cette révélation, elle n'arrangerait pas leur rapport. Donc il me semble qu'il aurait dû dire les choses autrement. Et je crois qu'il aggrave encore plus la situation avec le deuxième rêve qu'il révèle aussi. Et je pense que là encore que Joseph aurait pu tenir compte de la réaction de ses frères qui le haïrent plus après avoir entendu déjà le premier rêve. Et il aurait pu alors garder ce rêve ou seulement le partager avec son père, parce que le partageant avec ses frères, il a mis de l'huile sur le feu qui est déjà allumé. Pour Joseph, oui, pas de problème, il fallait qu'il partage ce rêve qui le confortait dans la préférence de son père, dans le fait qu'il était plus que les autres, et tant pis pour ses frères. Il a manqué de sagesse. Et on voit les conséquences avec la suite de l'histoire, où on verra dimanche prochain que cette jalousie accompagnée de haine donnera des envies de quoi ? De meurtre chez ses frères. Et on note d'ailleurs qu'au deuxième rêve, Jacob quand même réagit. Il réagit, il reprend son fils. Mais il me semble que quand on étudie un peu le texte et qu'on sait le contexte donc de ce temps, il réagit, il reprend son fils sur sa prétention, certainement parce que dans cette deuxième révélation, Jacob est concerné. Il est de ceux qui devront se prosterner devant Joseph, ce qui est loin d'être dans la norme du respect qu'il devait y avoir dans une famille dans ce temps-là, où ce sont les fils qui se prosternent devant leur père par respect et non le contraire. Et il me semble que ici, alors Jacob réagit pour cela. Jacob aurait dû déjà, me semble-t-il, réagir à la première révélation de Joseph que Joseph avait partagée avec ses frères, et car il n'était pas aveugle, il était ni sot, et il savait l'impact que cela aurait chez ses autres fils. Et il savait que cette révélation n'allait pas arranger les relations dans la famille. Mais Jacob ne va pas reprendre son fils Joseph pour la considération qu'il a de sa personne et de celle qu'il a de ses frères. Il ne les reprendra pas. Alors, quelles leçons tirer pour nous ? La première leçon que je vois, j'en vois deux, c'est l'importance de reprendre nos enfants. Ce n'est pas à la mode aujourd'hui de reprendre nos enfants. On ne reprend pas nos enfants. Oh, ça passera. Jacob aurait dû reprendre son fils Joseph pour qu'il ait une moins haute estime de sa personne et qu'il agisse de telle façon envers ses frères pour qu'il soit plus aimé par eux. Cela souligne l'importance pour nous de corriger nos enfants quand ils n'ont pas de bonnes paroles, de bonnes attitudes. Et quand je dis correction, ce n'est pas forcément donc de mettre une fessée, mais de les reprendre. Quand nos enfants n'ont pas de bons jugements sur les autres ou sur eux-mêmes, je crois qu'il est bon et nécessaire de reprendre nos enfants. C'est de notre responsabilité. Car nous ne devons pas accepter, oui, qu'ils aient donc une trop haute estime d'eux, une mauvaise estime des autres. mais encore moins accepter qu'ils aient aussi de la jalousie qui s'installe donc dans le cœur de nos enfants et que l'un d'eux ait de la prétention sur les autres. Nous devons agir et leur parler pour qu'ils recherchent et agissent afin qu'un climat de confiance et que des échanges fraternels soient cultivés entre eux. Voilà une leçon que nous pouvons tirer de notre histoire. Mais une deuxième leçon, c'est encourager nos enfants à accepter aussi leurs différences. J'ai 3 enfants, ils sont différents. On va me dire déjà, j'ai une fille et 2 garçons. C'est normal qu'une fille soit différente des garçons. Mais dans mes 2 garçons, ils sont différents, différents, différents. Alors, heureusement, il y a des choses communes. Hein. Mais il y a de la différence aussi. Donc, encourager nos enfants à accepter leurs différences. Une autre réaction que nous aurions pu voir chez Jacob, c'est qu'il aurait pu encourager ses fils à accepter leurs différences. Bien sûr, il n'était pas question que Jacob défende les raisons pour lesquelles Joseph était son préféré. Non. Mais à l'écoute des révélations, par exemple, que Joseph reçoit, Jacob aurait pu expliquer à ses autres fils que Dieu a choisi quand même Joseph, il lui donne des révélations. Et que c'était comme ça, on ne pouvait pas faire autrement, c'est Dieu qui a choisi. On dit ça avec d'autres mots, et vous voyez ce que je veux dire. Mais il aurait pu se dire, bon allez, arrêtons-nous là, conseil de famille. Donc qu'est-ce qui se passe? Oh là, mais d'accord, je comprends, ça vous gêne ce qu'il est en train de dire là, mais regardons un peu la chose. Qui c'est qui lui a dit? C'est Dieu. Donc voyez un petit peu, montrer que là, c'est Dieu qui fait une préférence en quelque sorte. Il appelle Joseph à avoir une responsabilité particulière, à être particulier dans son plan pour son peuple. Donc oui, il pouvait expliquer que Joseph aurait une destinée particulière et que celle-ci pouvait aussi l'amener à avoir une autorité importante. Peut-être que cela n'aurait pas été écouté par ses fils. Hein. Ça, on sait que des fois, on peut dire les choses. Mais au moins, Jacob aurait agi pour qu'ils acceptent leurs différences. Mais il ne l'a pas fait. Nos enfants sont souvent différents. Et ces différences amènent souvent des tensions entre eux. Ça se passe bien chez vous, dans les différences? Moi, chez moi, des fois, il y a des petites tensions, même s'ils sont adultes. Hein. Donc, et c'est la responsabilité des parents. Alors, quand on est grand, c'est plus difficile. Hein. Quand ils ont fait leur ménage et tout, c'est très difficile de mettre un peu son nez. Mais on essaye quand même de continuer à faire du lien entre eux quand il y a des soucis dans ce sens. Hein, donc, mais quand les enfants jeunes, c'est de notre responsabilité de père et de mère d'encourager nos enfants à accepter leurs différences en faisant parfois des efforts de patience et de grâce. D'accepter que l'autre n'est pas comme nous. C'est à nous de leur dire, c'est comme ça. Et il faut que tu apprennes cela, parce que tu en trouveras bien d'autres personnes qui sont différentes de toi. Et il faudra que tu fasses avec. Et Dieu te demande de faire avec. Il y a des choses à dire à nos enfants. Donc, et peut-être aussi accepter que nos différences nous amènent à ce que l'autre a plus. Parce que ça aussi, hein, les différences, c'est des fois gênantes parce que l'autre a plus. Ou l'autre a moins. Mais accepter aussi cela. Certes, certaines particularités d'un enfant, il faut le dire aussi, doivent être corrigées. Hein. Il ne faut pas dire, mais il est différent, il te tape dessus, mais il est différent, lui il a le droit. Non, ce n'est pas ça qu'il faut dire. On est d'accord, il est bien différent, il tape, donc ça c'est clair, c'est la différence. Mais cette différence-là, on ne l'accepte pas. Hein. Donc il est tout à fait normal que nous corrigions des différences qui doivent être corrigées. Donc, et ramener l'enfant donc, à une bonne attitude, à de bonnes paroles. Mais nous devons encourager donc nos enfants à apprendre à vivre avec d'autres enfants, différents qu'eux. Nous devons apprendre à nos enfants à vivre ensemble avec leurs prochains qui diffèrent d'eux. Et cela doit d'abord se vivre dans nos familles. Conclusion. Pour conclure, Dieu a voulu que dans sa parole, il nous ait rapporté des exemples de familles qui ne sont pas toujours exemplaires. Et quand on lit le livre de la Genèse, c'est extraordinaire. Que d'histoires qui sont loin d'être exemplaires parmi ces patriarches. Donc, et même David, l'homme selon le cœur de Dieu, il ne sera pas toujours exemplaire. Et s'il nous a donné ces histoires, notre Seigneur, ce n'est pas pour que nous les imitions, mais justement pour que leur exemple nous montre ce que nous ne devons pas faire et ce que nous devons alors puisque nous ne devons pas faire ça, faire autrement, selon donc sa volonté, pour nous personnellement, pour nos familles, pour nos couples, donc, afin que nous ayons des foyers conformes à la volonté de notre Dieu. Et ceci pour sa gloire et notre bien, ainsi que celui de nos familles. Que Dieu nous aide en cela à avoir de contribuer et à avoir des foyers de paix, d'amour. Oui, et de bien d'autres choses qui sont belles à vivre. Père, nous te bénissons pour ta parole, pour ce texte et pour ce que tu nous as rappelé. Et nous avons besoin, Seigneur, de toi pour que tu gardes nos enfants. Seigneur, que tu leur donnes de devenir des hommes et des femmes de Dieu et des hommes et des femmes qui s'aiment, qui aiment d'autres, mais qui s'aiment déjà entre frères et sœurs. Et puis, Seigneur, aide-nous à être de bons parents, à pouvoir transmettre de bons exemples, à pouvoir reprendre s'il faut reprendre, à pouvoir expliquer ce qu'il faut expliquer. Seigneur, tu vois que ce n'est pas toujours simple. Aide mes frères et sœurs qui ont des enfants jeunes, où là nous sommes beaucoup plus donc, dans le quotidien, à être avec cette responsabilité. Aide mes frères et sœurs qui ont des enfants maintenant, qui ont fondé leur foyer. Seigneur, que tu nous aides à pouvoir rester père et mère, donc selon toi, Seigneur, pour ta gloire et notre bien. Amen.